Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission. Avec Jean-Jacques Benex, à 73 ans, le réalisateur publie son premier roman Toboggan, un roman très, très personnel, je ne vous dis que ça. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, le nouvel album du groupe Tame Impala, et puis un livre bouleversant sur la famille et la fin de vie. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Tout de rose vêtu, on commence ce journal par un état des lieux concernant le cinéma français.
Verdict sans appel, c'est l'un des pires mois pour les cinémas en France depuis 10 ans. Étude du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. En janvier 2020, la fréquentation des salles françaises a atteint les 14,4 millions d'entrées. Un recul de 21,3% en un an. Alors, les raisons, les plateformes de vidéo à la demande, évidemment, mais surtout la grève qui a touché le pays entre décembre et janvier, oui. La faible offre des films, et puis baisse aussi des parts de marché des films français. Ils ont diminué de 12,3 points par rapport à 2019. Contrairement aux films américains qui, eux, ont augmenté.
Le rappeur Kobalade, que certains ne connaissaient pas, mais maintenant tout le monde va connaître, Kobalade dérape, les déprogrammations dans les festivals s'enchaînent.
Je vous rappelle les faits, ce rappeur a repris sur les réseaux sociaux un article affirmant qu'un père avait tué son fils de 14 ans car il était homosexuel. Il partage donc cet article et il l'accompagne d'un smiley qui signifie « bien joué », vous savez l'emoji poignée de main. Alors Kobalade a tenté de se défendre en affirmant qu'il n'était pas homophobe. Il reconnaît tout de même qu'il n'aurait pas dû partager cet article, mais c'était trop tard. Il a été retiré de la programmation du Main Square Festival à Arras, du Garo Rock à Marmande, du Dour Festival en Belgique. Et puis hier, c'était au tour du Wheel of Green de l'annuler. Il a été retiré donc de toutes les affiches. L'association SOS Homophobie s'est associée, je cite, à la vague d'indignation suite aux insinuations intolérables du rappeur Kobalade qui se réjouit du meurtre d'un jeune gay.
Une bonne nouvelle, la Bibliothèque Nationale de France a battu tous les records.
Et c'est grâce à une exposition, celle consacrée à l'écrivain Tolkien, le créateur du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Alors avec 135 068 visiteurs, c'est l'exposition la plus fréquentée dans l'histoire de la BNF, en un peu moins de 4 mois seulement. Alors que la Bibliothèque Nationale de France s'était fixée comme objectif 80 000 visiteurs. Dans cette exposition, 300 pièces sont exposées pour retracer le travail de Tolkien et de son univers fantastique. Manuscrits, dessins originaux de l'écrivain, tout y est. Mais c'est bientôt la fin, parce que l'exposition Tolkien à la Bibliothèque Nationale de France, c'est jusqu'au 12 mars. Donc dépêchez-vous.
Voilà, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est la fin, mais la bonne nouvelle, c'est que ça continue.
Voilà. Voilà.
Et on continue, nous aussi, avec une annonce musique et ça concerne The Weeknd.
C'est un peu ma chanson du moment.
Oh, ça sonne bien.
Ah, oui. L'artiste canadien nous offre beaucoup d'informations. Il vient de dévoiler la date de sortie de son nouvel album. Ce sera le 20 mars prochain. Il s'appelle After Hours. Il sera composé de 14 titres. Mon accent était pas mal là.
C'était très bien même.
Merci. Alors, ce n'est pas tout.
La pochette.
Voilà. La pochette a aussi été dévoilée sur son compte Instagram. Et comme on dit jamais 203, un nouveau single aussi nous a été présenté. Il porte le nom de l'album, donc je vais vous le redire. After Hours. Voilà le nouveau titre de The Weeknd, After Hours. Alors toujours ce petit côté électro pour cet artiste de 30 ans seulement, qui continue d'innover et surtout de cartonner, bien évidemment.
Et puis on termine ce journal par le Respect Tour, hommage évidemment à Aretha Franklin.
Oh, Ça se passera au Trianon le 16 mars prochain. Et puis en tournée dans toute la France, un spectacle hommage à la grande diva de la soul. Sur scène, la chanteuse Cheryl Pepsi Riley, grande chanteuse soul new-yorkaise. Elle reprendra les plus grands standards d'Aretha Franklin, mais pas seulement, les plus grands standards de la soul également. On écoute un extrait. What you want? Ça fait du bien à 10h08, ah, cette voix de Cheryl Pepsi Riley. Voilà, alors elle sera accompagnée de musiciens qui ont joué avec les plus grands aux États-Unis. Rendez-vous donc le 16 mars prochain. Au Trianon à Paris.
Dis donc, les musiciens qu'on entendait, ça tenait la boutique.
Hein.
C'est très très très
évidemment.
Bon.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Jean-Jacques Benex.
Bonjour Jean-Jacques Benex.
Bonjour.
Je suis enchanté de vous recevoir, vous êtes cinéaste, faut-il le dire. Je vais citer Diva, 4 Césars au compteur, surtout 37 de le matin, énorme succès qui a fait éclore Jean-Hugues Anglade et surtout Béatrice Dalle. Vous avez tourné votre dernier film en 2001, c'était Mortel Transfert. 2001, c'est il y a 19 ans. Et vous êtes une sorte de légende, et je lisais, comme je fais toujours pour chaque invité, avant de recevoir un invité, je lis une kyrielle de papier sur l'invité. Le plus récent remonte à votre sujet à juillet 2018. Pourquoi ce silence, Jean-Jacques Benex? Où étiez-vous passé?
J'écoutais pousser mes cheveux, comme dit l'autre.
Blague à part. Vous écriviez?
J'ai écrit.
Vous faisiez le mort?
Non, je m'entraînais à mourir, peut-être.
Légende dit que vous répondiez même plus au téléphone.
Non. Non, non. Mais
non, c'est pas vrai ou non, vous répondez
non,
plus.
Non, c'est vrai.
Vous répondez plus au téléphone.
Vrai, je réponds plus. J'écoute les messages si c'est important. Je rappelle. Sinon, ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui sont prêts à vous faire perdre votre temps pour leurs rêves à eux et qui pensent qu'on peut les réaliser pour eux. C'est-à-dire des gens qui vous apportent leur enfant à bénir ou leur script ou leur truc.
Voilà. L'enfant à bénir, c'est un script à tourner. Ils vous amènent leur script et ils disent « Est-ce que vous voulez pas tourner ça ?»
Oui, c'est un peu ça.
Et vous n'avez plus envie.
Non.
Vous publiez un roman ambitieux, pas moins de 380 pages. C'est chez Michel Lafon, ça s'appelle « Toboggan ». C'est une image, évidemment. C'est quoi ce toboggan?
C'est le toboggan de la vie. C'est cette descente. On est des fractales lancés à la vitesse de la lumière vers un néant. Et on vient du néant. Et j'ai cette impression profonde, on ne dirige rien.
C'est le toboggan de la vie ou c'est le toboggan de la fin de la vie? C'est
aussi,
pas vous faire injure que de dire que vous avez plus 20 ans et moi non plus d'ailleurs.
Oui.
Je veux dire pourquoi je vous pose cette question. J'ai retrouvé une interview de Jean-Hugues Anglade, 2018, un papier qui disait « Mais que fait Jean-Jacques Benex? Que devient-il ? » Et Anglade raconte qu'il vous croise un jour par hasard et vous lui expliquez que vous n'avez plus l'énergie de faire un film. Car dites-vous, entre 60 et 70 ans, le temps passe à toute vitesse, c'est un toboggan. Et Anglade vous dit « Fais un film qui s'intitule Toboggan ». Et c'est devenu un livre.
Oui, non, c'était plutôt quand je travaillais avec Yves Montand, on parlait de la vie et tout. Et à un moment, il me dit « Mais tu es un bambin ». J'avais 55 ans, je n'avais pas eu encore d'enfant. Et il m'a dit « Tu sais, de 60 à de 50, c'est rien, mais de 60 à 70, c'est le toboggan ». Et alors, cette phrase m'est restée. Je crois que le toboggan, il est entre 60 et 70, mais plutôt 70-80 de nos jours. Et donc, cette phrase m'est restée.
Ce livre raconte l'histoire d'un personnage qui est un peu votre double. C'est un type qui est cinéaste, qui a une histoire d'amour avec une fille qui a 30 ans de moins que lui et il se fait larguer un peu lamentablement. C'est votre histoire déjà ?
Non.
C'est pas votre histoire ?
C'est des bouts de...
D'accord.
C'est des bouts d'histoire, plus exactement. On s'est tous fait larguer et on a tous rêvé du grand amour.
Ouais. Imagine... Mais on n'est pas tous sortis avec une femme de 30 ans de moins.
Plus ou moins, si.
Ah bon?
Bah non. Un jour, si.
Ouais, non, elle serait bien jeune.
27.
Vous écrivez de votre héros, sa gloire cinématographique se conjuguait à l'imparfait. Et si sa créativité lui semblait intacte, il renaclait de plus en plus à affronter un milieu détestable qui l'ennuyait. C'est vraiment un milieu détestable, le cinéma.
Oui.
Ou est-ce que vous dites ça, pardon de vous poser la question, parce que vous ne tournez plus?
Non, non, non.
Vous l'avez toujours trouvé comme tel?
Je l'ai toujours pensé. Et je l'ai expérimenté. C'est plein de lâches, c'est plein de menteurs, c'est plein de voleurs. Et très rarement de gens bien. Et souvent, les gens bien partent avant les autres. On vous a beaucoup, pourquoi.
On vous a beaucoup menti, on vous a beaucoup volé.
Ah, mais volé, triché, battu, trahi. La trahison, c'est un art qui est à son sommet dans ce milieu.
Pourquoi? Pourquoi parce plus que dans la vie normale?
Parce que tout, dans le cinéma, tout est exacerbé. On vit à 200 à l'heure. Les aiguilles de la montre, ils vont deux fois plus vite. Ce sont des traversées tumultueuses. Quand on commence un film, on ne sait pas comment on sera à la fin. Et on est jeté dans une sorte de manège qui vous secoue et on en sort à 14 heures, héros ou fusillé.
Et on ne sait même pas si on va le finir. Je sais que dans le cinéma, il y a quelque chose qui s'appelle la garantie de bonne fin. C'est
oui.
quand même complètement dingue.
Ouais, ouais.
On ne sait même pas si ça va se terminer, le film.
Ça vaut beaucoup d'argent, ça s'assure. Il y a des assureurs qui prennent la garantie de bonne fin. En réalité, c'est le producteur qui doit la prendre. Mais qui est producteur aujourd'hui? C'est-à-dire, à qui appartiennent vraiment les films? Ils appartiennent à des groupes.
Ouais.
Ils appartiennent à ceux qui mettent l'argent au Sofica. Ils appartiennent à des grands groupes qui conjuguent le cinéma comme on conjugue les ventes dans les supermarchés. C'est-à-dire, quelle est la chose qui risque de se vendre le plus et le mieux et dans un temps le plus rapide? Donc, très rapidement, on fait appel au même et à une sorte de petit cercle.
En même temps, on ne va pas se plaindre ici que le cinéma fasse des entrées. C'est quand même une meilleure non. chose plutôt qu'il soit subventionné. Mais non. ce que vous dites par là, c'est que le cinéma avec le producteur à l'ancienne qui avait la Rolls-Royce, le gros cigare et qui mettait son argent, c'est fini, ça n'existe plus. C'est des gens dans des bureaux qui parlent parfois par français.
Oui, oui.
Et qui
oui,
vont
oui.
même jamais au cinéma de l'année.
Oui, oui, oui. Et qui viennent de la comptabilité. Je ne veux pas citer des noms, mais ancien comptable de Fiat, ancien comptable de ci, de ça, et qui veulent rationaliser les choses.
Et qui vous explique la vie? Et qui vous parle d'art ou pas du tout?
Non, d'art, jamais. Et de cinéma, très peu.
Ah oui.
Ouais, j'ai fréquenté énormément Hollywood. Hein.
Ouais.
Jamais. Alors qu'ils me voulaient vraiment.
Ah bah ça oui.
Jamais un seul type ne m'a demandé « Qu'est-ce que vous avez envie de faire ?» Jamais. En revanche, ils sortaient d'un tiroir... un truc, il ne voulait pas faire ça. Alors, c'est une histoire, par exemple.
Non, mais je vais dire quand même, il a refusé, Jacques Benex, il a refusé Evita avec Madonna, il a refusé Alien 3. Ouais, vous êtes un dingue quand même, ça ne se refuse pas.
Non, parce que j'ai toujours eu besoin de désirer intensément ce que je faisais. Je n'avais pas assez de désir. Qu'est-ce que j'ai refusé aussi? Avengers. Là, c'était un sujet qui avait le feu vert.
Ouais.
Le studio, j'avais un énorme salaire. J'ai dit non parce que c'était pas moi, je savais pas le faire en fait.
Il y a deux ou trois cinéastes français qui sont en train de vous écouter et qui viennent de décéder en disant mais moi Avenger je le fais tout de suite. Vous restez
mais
avec nous Jean-Jacques Benex.
Ils ont raison hein.
Revenez à la vie les gars.
Jean-Jacques Benex est notre invité. Dans un instant on va remonter votre toboggan, remonter le fil de votre vie. Jean-Jacques Benex avec le portrait inattendu d'Hélène Manarino sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Jacques Benex, vous ne la connaissez pas, je vous présente Hélène Manarino.
Bonjour.
Elle va raconter des choses que personne, ou presque, ne connaît sur vous, plutôt que personne n'a jamais lu sur vous ou entendu. Hélène, c'est à vous.
Bonjour Jean-Jacques Benex. Alors je vais dévoiler des petits détails vous concernant. Alors comme Philippe vient de le dire, que l'on ne connaît pas forcément, vous êtes très secret, très discret, donc ça a été une enquête difficile, sachez-le. Vos proches disent de vous que vous êtes drôle, passionné, gourmand, ou plutôt gourmet, ami fidèle surtout. Alors Jean-Jacques Benex, vous aimez tout d'abord faire rire, parce que vous avez vécu notamment au ski, à Avoriaz, en vous moquant du non-style d'un de vos amis, ou tout simplement se moquer de celui qui ne sait pas skier. Vous avouez vous-même qu'à cette époque, vous n'étiez pas très bon skieur d'ailleurs. Sur les plateaux de tournage, vous aimez aussi le comique de répétition, notamment sur le tournage du film Diva, où l'une des actrices portait deux sacs à main que vous amusiez à piquer régulièrement avec un couteau.
C'est vrai ça?
Non, ça c'était la productrice et c'était juste un fantasme.
Ah, c'est ça.
On voulait lui clouer ses sacs.
Ah bon, pourquoi?
Et parce qu'elle les tenait toujours comme ça, puis elle les posait. Alors, mais... on s'est dit si elle...
Mais il y avait quoi dans les sacs?
Elle
y avait des billets,
du pognon, des trucs. Mais elle avait toujours deux sacs. C'était Irène Silberman, la productrice. Mais je l'aimais bien quand même, hein,
ouais.
parce que c'est grâce à elle que le film s'est fait.
Des tournages bon enfant, vous étiez souvent accompagné de votre vin blanc de référence, le Condrieux. Mais surtout, vous étiez le plus grand fan de ce trio mythique.
Jésus 2, le retour. T'étais né dans une étable, mais un jour on me construira des édifices. Que même les plus gros milliardaires pourront pas se payer.
Et quel est ton nom?
Christ. Jésus-Christ. Et toi?
Judas.
Les inconnus, et oui, il vous arrivait très régulièrement même de lancer quelques répliques, puisque vous connaissiez absolument tout par cœur entre deux prises. Mais votre phrase fétiche, elle vient de vous. Dès qu'un beau plan venait d'être réalisé, vous pouviez lâcher un « ça c'est un plan qui a du slip ».
C'est vrai ?
C'est exact.
C'est votre réplique, à vous. Et vous avez donc répété cette phrase très souvent. Une carrière, il faut le dire, et c'est important, vous en êtes très fiers. Chez vous, il y a beaucoup d'objets, affiches, qui correspondent d'ailleurs à votre carrière. Véritable passionné, du côté de la nourriture déjà, la bonne bouffe, vos moments préférés, le caviar d'aubergine et la saucisse de morteau, notamment de votre amie Monique.
Oh, les infos.
Alors j'ai dit que j'allais dévoiler des détails, mais c'est important
d'accord,
de le savoir.
D'accord, mais bien sûr, c'est très important.
C'est vrai, en
oui,
plus.
Oui, absolument. Voilà.
Passionné du Japon, de sa culture, de l'attitude aussi, vous aimez les sensations fortes, toujours maîtrisées avec sécurité. Vous êtes tout d'abord un motard, en vrai. Vous vous baladez régulièrement en moto dans Paris, vous adorez les rallyes, vous êtes capable de faire l'apologie des dernières motos haut de gamme. Mais attention, des machines qui protègent le risque, non, ça ne vous intéresse pas. Comme certains disent de vous, vous avez un petit côté samouraï. Alors, vos potes, vous aimez sur surtout la mécanique de l'apprentissage, de la peinture par exemple, mais aussi du piano. Vous en avez un chez vous et vous l'étudiez très régulièrement depuis quelques années, intellectuel et manuel. Quand quelque chose vous plaît, il vous le faut, comme ce jour où vous croisez une femme dans la rue, vous êtes en voiture avec une de vos amies qui travaille avec vous. Cette femme porte une jupe avec les différentes facettes d'opéra et vous vous dites « c'est cette jupe que je veux dans mon film ». Et votre ami est allé lui demander. Et vous l'avez eu.
C'est pas vrai.
Oui, je l'ai envoyé parce que c'était mieux que ce soit une femme pour accoster la fille et lui dire on voudrait votre jupe.
Et elle a fait quoi après ?
Elle nous l'a donnée.
Mais après, elle est restée en culotte dans la rue ?
Ah non, elle nous l'a donnée, on a pris son adresse. Puis elle nous l'a donnée. Elle est portée par la jeune actrice Anne Lu dans le film. C'est un miracle. Mais c'est des choses, on prend des choses du réel et puis...
Anne Lu dans Diva ?
Oui.
Hein, la petite femme, la petite nana du postier.
Oui.
Incroyable, hein, voilà, la petite Eurasienne.
Oui.
Et vous étiez en voiture et hop,
Oui, c'était rue de Vaugirard, je me souviens très bien.
Bref, vous ne passez à côté de rien, Jean-Jacques Benex, pour que les choses soient belles. Et ça, c'est une vie qui a du slip.
Waouh.
Je l'ai dit, hein. Moi, je l'assume.
C'est bien, il faut... mais c'est ça, c'est très juste.
Et vous roulez toujours à moto, Jean-Jacques ?
Oui. Sauf aujourd'hui, je pensais qu'il pleuvrait, alors je suis venu en taxi.
D'accord, parce qu'il y a beaucoup d'histoires de moto avec une fille qui la renverse, qui ne sait même pas de quel côté il faut se mettre. Enfin, c'est n'importe quoi, les gens avec les motos, non. En plus, c'est dingue, elle penche d'un côté, on peut deviner facilement.
Oui, mais parfois, les jeunes femmes et les motos, ça fait deux choses différentes.
Vous nous raconterez ça, vous restez avec nous. On a encore plein de questions. Merci beaucoup, Hélène.
Jean-Jacques Benex est notre invité. Dans un instant, on fera le tour de nos indispensables du jour avec Angé Châtelier qui nous parlera du groupe Tame Impala. On parlera aussi littérature avec Nicolas Carreau et tout ça, c'est dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
C'est l'heure, Philippe, de nos indispensables du jour. Dans un instant, on va parler littérature avec Nicolas Carreau, musique avec le groupe Tame Impala. C'est Angé Châtelier qui va nous en parler et tout ça avec notre invité, le réalisateur Jean-Jacques Benex, qui publie chez Michel Lafon son premier roman qui s'appelle Toboggan.
Ça s'appelle Toboggan et c'est un roman très personnel parce qu'on reconnaît évidemment dans ce roman Jean-Jacques Benex, votre double. Vous racontez un soir, vous êtes avec votre équipe de tournage, enfin le héros, il a des vertiges. Pourquoi c'est saillant à ce point ? Ça vous a fait peur ?
Mais j'imaginais cette situation de se retrouver au milieu de gens dans un travail et tout d'un coup de perdre un peu les pédales.
Ouais.
Mais c'est une sorte d'allégorie.
C'est une métaphore.
Oui. C'est quand tout d'un coup le sol se dérobe sous vous. L'angoisse peut naître de ça.
Et vous avez l'impression que le sol se dérobe sous vous parfois, vous-même. Il y a de l'humour noir, je suis obligé de le dire parce que c'est tragique, mais moi je me suis marré. Le héros fait des examens médicaux, une histoire de globules blancs, de plaquettes, etc. Il voit un spécialiste et il a peur parce qu'on fait des prélèvements. Et là, il demande au médecin, qui s'appelle, son nom me revient, docteur Lameron, dans le personnage. Il dit : c'est une leucémie ? Non, pas pour l'instant. Ça peut le devenir ? Oui, mais le pourcentage de chance reste faible. De combien ? Entre 10 et 20%. C'est une statistique. Hein. Alors, le héros demande : vous embarqueriez dans un avion qui a entre 10 et 20% de chance de se cracher ? Le docteur sourit franchement, vous êtes déjà dans l'avion. Je me suis dit, waouh.
Oui, c'est la réalité. poser ce genre de questions.
Oui, mais c'est drôle, on dirait des punchlines.
Oui, mais quand, c'est fait
quand,
pour.
Quand le héros dit « j'ai l'espérance de vie d'un labrador », je me dis « tiens, ça vit combien de temps, un labrador ?»
12 ans.
Voilà. Ah mince, vous avez répondu à la question directe. Vous n'avez pas 12 ans d'espérance de vie, vous vous donnez ça?
Ah non, non, pas moi.
C'est pas vous.
Mais c'est mon personnage.
D'accord.
Il l'a.
Mais des fois, vous ressemblez tellement à votre personnage que...
Mais c'est normal, je pense que... Mais Proust, il est dans la recherche du temps perdu.
Tout le temps.
C'est marrant parce qu'aujourd'hui, on est en train d'arriver à vouloir authentifier la fiction avec le réel. Non, c'est de la fiction. Mais puisque la fiction, forcément, puise ses racines dans le réel.
C'est marrant que vous parliez de Proust, parce que Proust sortait pas de chez lui pour écrire, et vous êtes resté chez vous enfermé combien de temps pour écrire ce livre? Parce que ça s'écrit pas en deux jours.
Longtemps.
Combien de temps vous avez travaillé sur ce livre?
Deux ans, avec des coupures, des arrêts. Mais c'est dur. C'est dur. C'est plus dur que le cinéma.
C'est pas vrai, pourquoi?
Mais parce que le cinéma, vous êtes comme un boxeur, on vous pousse hors du coin, il faut aller au combat tous les matins, tous les jours, quoi qu'il arrive. Le livre, c'est vous êtes tout seul. Si vous voulez pas, vous faites pas. Donc, il y a que l'éditeur qui vous pousse, mais l'éditeur, il a pas tellement de pouvoir en fait. Donc, c'est vous face à vous-même et à l'idée que vous vous faites de vous-même. Alors, quand vous avez pas beaucoup d'estime de vous-même, c'est un problème.
L'éditeur, je ne l'ai pas dit, peut-être, c'est Michel Lafon.
Oui.
On va parler de musique maintenant. Je sais que vous êtes fan de musique plutôt de piano classique, mais on va partir en Australie. Alors, c'est drôle parce qu'on recevait tout à l'heure le rédac-chef de Rock & Folk et il met en couverture Tame Impala. En fait, il s'appelle Kevin, le chanteur. Son nom m'échappe à l'instant.
Kevin Parker,
voilà. Branleur, mais talentueux. Angèle Châtelier, c'est à vous d'enchaîner après
oui,
ça. C'est ce qu'il écrit. Hein.
Plutôt, voilà, mais plutôt surfeur quand même, Tame Impala.
L'un n'empêchant pas l'autre.
Exactement. Tame Impala, l'un de leurs titres les plus connu, c'est celui-ci. Une chanson sortie en 2015 sur leur album Currents, un carton planétaire. Vous l'entendez, Tame Impala, c'est du rock psychédélique, de la pop synthétique avec plein de nappes de son. Le groupe est de retour avec un nouvel album appelé The Slow Rush. Derrière Tame Impala, on le disait, se cache surtout Kevin Parker, le génie aux cheveux longs, basket aux pieds, tête pensante du groupe. C'est lui qui compose et arrange tout, tout seul. Dans une vidéo postée sur la chaîne YouTube du groupe, on le voit composer. Alors écoutez, on entend d'abord le métronome, puis sa guitare saturée.
C'est la basse, ça.
C'est une guitare.
Ah oui, bah elle joue bien bas.
Dans la vidéo, on le voit poser sa guitare, il se sert une gorgée de limonade et hop, il s'installe sur sa batterie. Et à la fin, forcément, ça a donné un morceau. Ce nouvel album, ce sont 12 titres planants et travaillant plusieurs fois. Maintenant, une chanson, elle n'est jamais vraiment finie,
non, elle évolue.
Comme le titre Borderline, présenté en avant-goût il y a quelques mois, est bien différent de la version présente dans le disque. Il y a de beau dans cet album, c'est aussi sa pochette. On en parle toujours très peu des pochettes. C'est une photo prise en Namibie, dans le village fantôme de Kolmanskop. Il y a une porte et des murs orangés masqués par des mètres de sable qui sont là depuis des semaines ou bien des mois. On ne sait pas vraiment et ça symbolise toute la trame de ce nouvel album de Tame Impala qui est le temps. Alors non pas par flémardise, Philippe, mais plutôt par curiosité, j'ai demandé à trois personnes de me dire ce qu'elles ont pensé de cet album. Toutes les trois sont fans de Tame Impala depuis leur début.
Dans ce nouvel album de de Tame Impala, je pense que Kevin Parker, quand il l'a produit, il a pris tout ce qu'il y avait de meilleur dans le titre The Less I Know The Better et l'a mis dans l'album. Voilà, c'est tout simplement parfait.
Kevin Parker a produit des sons plus dansants pour moi et beaucoup plus groovy. En fait, c'est le prolongement de son style.
J'ai beaucoup aimé ce dernier album. Je l'écoute aussi bien le matin pour me réveiller parce que ça me met dans un espèce de spleen que j'adore, que le soir pour passer voilà, une soirée tranquille chez moi ou avec des amis. Et, c'est un des artistes les plus inventifs de ces dernières années.
J'ai compris donc ce nouvel album de Tame Impala s'écoute aussi bien quand vous êtes déprimé que pendant vos apéros.
C'est votre vie ça Angèle.
Oui, les apéros et la déprime.
Mais c'est tellement ça, ça vous a plu Jean-Jacques Benex?
Moi j'aime bien, c'est assez spatial.
Voilà. Oui. Cosmique.
Hein, vraiment cosmique. Et puis ouais. Comme l'écrivait Vincent Tanière, du son psychédélique 2.0 qui ne s'interdit pas la drogue. Ça sentait un petit peu, ça flottait un petit peu.
Voilà.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Jean-Jacques Benex qui est notre invité ce matin. On va revenir dans un instant à son premier roman Toboggan, sorti chez Michel Lafond. Mais avant, avec Nicolas Caron, on continue à faire le tour de nos indispensables du jour. Philippe, on va parler d'un autre roman.
Oui, bonjour Nicolas.
Bonjour.
Et justement, avec ce roman, Nicolas Caron, vous nous emmenez en Amérique ce matin.
Avec Stéphane Merrill Bloch, il signe Le Noir entre les étoiles chez Albin Michel. Stéphane Merrill Bloch, il vit à Brooklyn maintenant, mais il est né et a vécu longtemps au Texas, dans la banlieue de Dallas, et c'est là que se déroule son roman. L'histoire est assez terrible. C'est l'histoire de la famille Loving. Oliver, le fils, a été grièvement blessé lors d'une fusillade dans son lycée. Un jeune type s'est pointé avec une carabine. On connaît ça par cœur. Malheureusement, il a tué plusieurs personnes dans le lycée. On ne sait pas trop pourquoi. Et puis, il s'est suicidé.
Et Oliver n'est pas mort.
Non, il a survécu à ses blessures, mais il est plongé dans le coma. Et les médecins passent leur temps à étouffer les espoirs de sa mère, Eve, persuadée qu'il va revenir à la vie. Nous sommes 10 ans plus tard quand commence le roman et on observe à la fois donc Eve, la mère, Jed, le père devenu complètement alcoolique, et puis Charlie, le deuxième fils, qui a fui tout ça en se réfugiant à New York. Ce sont des âmes perdues. Tout tourne autour de ce drame dont il n'arrive pas à se relever. Comme Eve, par exemple, qui vole très régulièrement des livres dans les magasins parce qu'Oliver est fan de science-fiction. Stéphane Merrill Bloch.
To me, it felt...
Pour moi, la signification, c'est que la vie lui a tout pris. Et elle a besoin de prendre quelque chose en échange. Elle vole ses livres pour lui comme si elle préparait son retour. Parce que cette foi dans son retour, c'est la seule chose qui l'a fait continuer à avancer.
Et pourtant, si j'ai bien compris, il n'y a aucun espoir.
Non, aucun. Enfin, jusqu'à ce qu'un chercheur propose d'utiliser un nouveau modèle d'IRM beaucoup plus précis pour scruter le cerveau d'Oliver. Et là, on se rend compte que l'activité est telle qu'il serait peut-être éventuellement possible de communiquer avec Oliver. Peut-être encore un espoir qui pourrait être déçu aussi. Stéphane Merrill Bloch s'est inspiré d'une histoire vraie il y a quelques années en Belgique. Un jeune garçon était plongé dans le coma. Un examen a conclu qu'il était enfermé dans son corps, mais conscient de tout. Pour communiquer, une sorte de thérapeute un peu gourou a déclaré qu'elle pouvait ressentir les réponses du jeune garçon en lui tenant la main. Donc on l'a interrogé, on lui a demandé comment il allait, etc. Et on écoutait les réponses transmises par la thérapeute, un peu médium comme ça, jusqu'à ce qu'un médecin sceptique décide de vérifier par lui-même. Et il s'est avéré que, de bonne foi ou non, la technique de la thérapeute ne fonctionnait pas du tout.
Donc c'est un roman aussi sur le coma, sur le fait d'être enfermé dans son propre corps, c'est ça ?
C'est aussi ça, mais c'est d'abord un livre sur la violence, celle du Texas et de l'Amérique.
Il y a 20 ans, une tuerie de masse comme ça était quelque chose d'extrêmement rare. Et maintenant, ça fait presque partie des clichés sur la vie en Amérique. C'est un nouveau phénomène. Mais c'est en même temps relié à la manière dont les hommes blancs ont toujours assuré leur domination sur le territoire américain. C'est-à-dire par la violence. Et puis, il y a le mythe au Texas du cow-boy. D'une certaine manière, c'est plus compliqué que ça, bien sûr, mais d'une certaine manière, c'est un homme blanc qui essaye de contrôler les choses par la violence.
comme dans le cas des grands romans américains. Si je vous suis, c'est donc un roman sur les grands enjeux du pays.
Voilà, c'est une certaine histoire de l'Amérique, en plus d'être un très bon roman du point de vue de l'histoire, de l'intrigue et de la construction du récit.
Le Noir entre les étoiles, donc, c'est de Stéphane Merrill Bloch chez Albin Michel. C'est traduit par qui ?
Par Marina Borasso.
Voilà, je sais que c'est important parfois de citer les traducteurs, toujours, les traductrices. On vous retrouve dimanche, Nicolas, dans votre émission La Voix est livre.
Oui.
Avec qui ?
On visitera notamment la bibliothèque de la comédienne, chanteuse et romancière Victor Laszlo.
Ouais. Jean-Jacques Benex, vous dites, page 106 dans votre roman, qu'à partir d'un certain âge, on ne lit plus, on relit. Vous relisez quoi en ce moment ?
Je relis La Montagne Sacrée.
Magnifique. Et aussi, j'ai une autre question. Vous aviez acheté les droits du roman de Selby le démon, il y a plus de 30 ans. Vous avez fait une croix sur le film, vous espérez toujours le monter un jour ?
Non, je n'ai pas fait de croix. Mais il faudrait que je me décide à me remettre dans les chaussures de réalisateur et que j'affronte ce milieu.
Et c'est vous qui ne voulez plus ?
Oui, peut-être. Mais c'est peut-être que c'est un jeune réalisateur que je donnerai les droits.
C'est vous qui l'avez.
Le une femme, peut-être. Même.
Le démon, Selby, en deux mots, Nicolas.
Le démon, c'est un jeune type qui travaille à New York dans la banque, il me semble. Et il
mais faut dire, c'est
réussir.
Un roman culte. Faut dire,
voilà, c'est un roman culte, fin des années 70. Un peu moins connu que Last Exit to Brooklyn, qui est le plus connu de Hubert Selby Jr. Mais donc, ce type-là, il a tout pour réussir. Et en fait, il est en proie à des pulsions de violence sexuelle. Et puis, c'est une escalade. En fait, ça va être de plus en plus violent et c'est en fait bizarrement un peu American Psycho, c'est un peu la même histoire.
Mais moi je pense qu'il a piqué la thématique, hein, vraiment.
Bret Easton Ellis, qui a écrit American Psycho, piqué à Selby.
Ah oui, je suis sûr, moi. Moi ça m'a semblé parce que ça venait avant, hein. Et
oui,
je trouve que c'est plus intelligent, plus fin. Ce qu'a fait
Selby.
Ouais. Oui, mais non, parce qu'American Psycho, c'est le plus grand roman du monde.
Et les gars,
vous savez que je l'ai refusé aussi.
Vous avez refusé American Psycho?
Oui, parce que je trouvais que ce n'était pas possible. Non, j'avais pas envie de mettre ça en scène. Alors que le démon, oui.
Parce que vous le trouvez
parce
plus
que c'est
subtil.
Quelqu'un qui est plus proche de nous.
En tout cas, c'est vous qui avez les droits du démon.
Oui.
Et si quelqu'un a envie de le mettre en scène, il va vous appeler, vous allez l'envoyer bouler.
Non, j'ai envoyé bouler pas mal de gens, parce que tout le monde veut ça, mais il faut quelqu'un qui est bien. À un moment, je pensais à Lisa Cholodenko, et elle n'a pas voulu le faire. Et alors, c'est resté comme ça. Il y a une fille que je trouve formidable, c'est la fille qui a fait La jeune fille facile. Jeune réalisatrice française. Formidable.
On a juste le temps de la pause pour trouver le nom de la réalisatrice parce que là, on ne l'a pas ici autour de cette table. On la retrouve tout de suite.
La dernière partie de Culture Média, c'est dans un instant avec notre invité Jean-Jacques Benex sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
C'est la dernière partie de Culture Média avec nous autour de cette table toujours, Angèle Châtelier, Nicolas Carreau et notre invité, le réalisateur Jean-Jacques Benex qui publie chez Michel Lafon son premier roman qui s'appelle Toboggan, Philippe.
Et évidemment, on a retrouvé le nom de la réalisatrice à qui vous faisait allusion pour éventuellement tourner le démon de Selby dont vous avez les droits, c'est Rebecca Zlotowski qui a fait un film remarqué qui est dans le coffret des Césars, un film avec Zaya Dehar. Vous avez vu ce film ?
Oui, bien sûr, et je l'ai trouvé formidable. Je trouve que c'est un des films les plus intelligents et les mieux faits du coffret, quoi. Et c'est bizarre, elle n'ait pas été sélectionnée, quoi.
Parce que j'explique comment ça se passe. Dommage. Les gens qui votent, vous votez pour les Césars, Jean-Jacques Benex, reçoivent un coffret avec tous les DVD des films sélectionnés qui sortent dans l'année. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle une shortlist. C'est la fameuse shortlist dans laquelle 12 nominations ont échu au film de Roman Polanski qui est J'accuse. Vous pensez quoi de cette polémique autour du film de Polanski ?
Je la comprends, mais je la réprouve.
C'est-à-dire
parce que nous n'avons pas à juger de la moralité des artistes, mais de leurs œuvres. Point final. Il faut rester très, très serré sur des trucs comme ça. Si les artistes se mettent à demander aux artistes eux-mêmes de donner des certificats de moralité, on arrive dans un système fasciste. C'est en train d'arriver. Je me suis élevé à l'ARP contre cette volonté de comment il s'appelle-t-il, Jolivet, de sortir Polanski. Mais attendez, on a fait des pieds et des mains pour l'avoir. C'est une bande d'hypocrites. C'est comme ceux qui, tout d'un coup, découvrent Matzneff alors qu'ils ont été le copain de Matzneff. C'est dégueulasse. Donc on ait un peu le courage de ses opinions.
Il y a une grosse différence, c'est que Mads Neff s'était raconté dans ses livres.
C'est vrai.
Polanski, c'est une histoire qui le précède d'une trentaine d'années aux États-Unis.
40.
Et pour lequel il était jugé. Je précise d'un mot, l'ARP, c'est l'association des auteurs, réalisateurs, producteurs.
On n'a pas à virer des metteurs en scène. C'est quoi ça? C'est les maisons des artistes soviétiques. Jamais, je refuse absolument. Moi, j'ai voté pour Polanski, je voterai pour Polanski encore.
Vous avez voté pour Polanski, le film, ou Polanski, le réalisateur?
Polanski, le film.
Pourquoi vous ne tournez plus? Question qu'on vous a posée 200 fois. Je veux dire, ce qui m'a vraiment étonné, vous dites, c'est à cause de la lune dans le caniveau. Je me dis, mais quel rapport?
La lune dans le caniveau, si vous voulez. Imaginez que vous ayez un jour été pris dans un accident terrifiant, que vous soyez resté, je ne sais pas combien de temps dans le coma, vous soyez brisé de partout, ça laisse des traces. J'ai perdu mon innocence à ce moment-là. Et c'était le moment où j'étais le plus vulnérable parce que je sortais de Diva, qui était un succès, un triomphe extraordinaire, mais un triomphe pour lequel on m'avait quand même lancé des pierres.
Ouais.
Et je fais ce film qui est un exploit dans des conditions incroyables à Cinecittà. Enfin, j'ai l'impression que c'est arrivé et j'y mets vraiment tout ce que j'ai. Et là, à la sortie, c'est vraiment la mise à mort. Vous avez 40 flingueurs qui vous tirent dessus.
Y compris par certains comédiens du film.
Oui, Depardieu qui ne sait pas très bien où il en est. Daniel Toscan du Plantier qui d'ailleurs est revenu là-dessus.
Qui était le producteur.
Très peu de temps avant sa mort, on a eu une grande conversation avec ça. Et Daniel était un type en fait, que j'ai aimé à la fin. Alors même si j'ai eu de la haine pour lui, mais il est revenu dessus, ça a été bien.
Je vous l'ai appris. La sortie de Diva en Blu-ray le 5 mars, ça vous fait plaisir?
Très.
Vous regardez parfois vos anciens films?
Non.
Mais ça vous fait plaisir que ça existe, oui. Et que vous existiez toujours. Ce livre existe, il vient de sortir, il s'appelle Toboggan, c'est signé Jean-Jacques Benex. C'est un roman chez Michel Lafon. Et vous reconnaissez, ça c'est la suite Bergamasque, dans une version avec violon, parce que vous en parlez beaucoup dans le roman. Je me suis dit que ça vous ferait peut-être plaisir d'entendre quelques notes. Vous la jouez maintenant au piano, la Bergamasque, vous la tenez ou pas?
Non,
encore?
Non.
Le début?
Non, moi je joue Debussy, du Bach, besogneux. Mais j'ai commencé à 55 ans. Hein,
je sais.
Sans fondement, hein, sans rien. Hein, sauf le solfège du lycée qui était catastrophique.
Ouais.
Donc c'est une vraie passion.
Merci d'avoir été avec nous. Merci Jean-Luc Benex.
C'est moi.
Merci à tous. Voilà ce que j'attendais. Demain, nous, on se retrouve à 9h pour Culture Média. Je remercie Angèle Châtelier, je remercie Nicolas Carreau, je remercie Céline Dacosta. Nous serons à 9h demain avec le rédac-chef de Philosophie Magazine et avec le comédien Arnaud Ducret pour la sortie du film Mine de Rien. Et il y a Benex qui est en train de parler avec Angèle Châtelier. C'est comme ça que j'aime les... Non, au contraire, c'est comme ça que j'aime que les émissions se passent. Continuez, ici, on est libre. Je vous dis à demain sur l'antenne d'Europe 1.
À demain, Philippe Bondel. Dans un instant, Andrew Manoff débarque avec toute sa bande et leurs invités. Aujourd'hui, Alison Paradis, Guillaume Santou et Francis Huster sur Europe 1.